En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité.
Nous sommes le 19 septembre 2023 et je reçois Jocelina Dubuc, présidente fondatrice du spa Eastman en Estrie. Depuis son adolescence, mon invité découvre toutes sortes d'approches pour améliorer son alimentation et aussi approfondir sa conscience. Dans cette entrevue, Jocelina nous raconte son parcours, tout en nous partageant le fruit de ses nombreux apprentissages. Sortez vos calepins de notes, vous en aurez sûrement besoin. Jocelina, merci beaucoup de t'être déplacée à Montréal pour venir à notre rencontre, pour venir à Brave. Je suis vraiment contente.
Moi aussi, avec plaisir.
J'ai eu le bonheur de fréquenter le spa Eastman comme beaucoup de gens. Mais dernièrement, je suis venue pour une retraite et j'ai pu voir ta passion. Tu sais, t'es partout dans le spa pendant que... Tu sais, on se dit, mais mon Dieu, elle habite là. J'ai pu constater toutes les connaissances que tu as aussi. Tu les as partagées, t'adores partager tout ce que t'as acquis comme connaissances, comme expérience. Puis... je sais, moi, que j'ai beaucoup appris à ton contact et que nos invités vont beaucoup apprendre à ton contact. Puis, je voulais pas manquer l'occasion de ce partage aujourd'hui. Alors, merci infiniment. Jocelina, tu es née à Sorel-Tracy en 1947 et tu es l'aînée d'une famille de 5 enfants. Tu as 2 frères et 2 sœurs. Comment s'est déroulée ton enfance?
Heureuse jusqu'au moment où ma mère meurt d'un accident d'auto. J'ai 17 ans et c'est un choc. Hein? Et je me retrouve à la tête d'une famille et je ne sais pas par quel bout prendre ça. Alors, ça a été costaud. D'ailleurs, je remercie mon père qui est décédé maintenant, mais je voulais arrêter d'aller à l'école, prendre soin de mes frères et mes sœurs. C'était le modèle d'affaires hein, de l'époque. Hein? Tu prends soin de tes frères et tes sœurs. Mon père m'a dit, écoute, moi, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Tu finis. Alors, j'ai fait un bac en histoire, en géographie. Et parallèlement à ça, je prenais soin de mes frères et mes sœurs. C'est comme si j'ai traité ça quasiment comme une entreprise. Je connaissais rien en cuisine. J'avais jamais fait le ménage. On avait tout à coup une maison à prendre soin. Et on allait à l'école. Alors, comment on s'organise? Bon. Alors, je pense j'ai développé mon premier modèle d'affaires avec mes frères et mes sœurs. Ils m'en veulent encore de tout ça. Et, alors, ça a été un choc. Et le deuxième choc, c'était de réaliser que j'avais pas les outils pour les élever. Mmh. On s'entend? Prendre soin d'eux autres, je connaissais rien. Puis, je suis tombée sur un livre qui s'appelait « L'aventure de la conscience » pour réaliser que... oh my God! L'humain est tellement plus vaste, plus large que ce qu'on m'a même appris. Et au même moment, je découvrais le pouvoir de l'alimentation. Parce que, pas faire de révélation, parce que je pense que tout le monde le sait quasiment, là, dans mes amis, ben, j'ai fait de l'arthrite, j'avais des menstruations douloureuses.
Toute jeune, vingtaine.
Oui. Menstruation. Dès les menstruations qui s'est arrivé, c'était très difficile. Plus un peu de boutons, tu sais, là, l'adolescence. Puis des douleurs dans des articulations. Puis le médecin avait dit, oh, c'est parce que vous poussez trop vite. Je suis pas très grande. Là. On savait pas comment traiter ça, ces choses-là. Alors, j'ai 3 conditions qui sont pas énormes. Ça sabote pas ma vie. Mais quand je tombe sur un petit livre... où il parle qu'on peut peut-être faire des cures pour se désintoxiquer. Moi, c'est un mot qui appartenait pas à mon vocabulaire.
Ça, c'est un deuxième livre.
Oui, c'est un deuxième livre. Alors, il y a eu 2 livres en même temps. Mm. Ça a fait une bombe à l'intérieur de moi. C'est la cure de raisin. S'il vous plaît, ne faites pas la cure de raisin. On connaît mieux maintenant. Mais d'entrée de jeu, cette cure-là, dans les années... avant la chimio, la radiothérapie, chaque pays avait développé un savoir. Moi, j'appelle ça les grandes médecines du monde. La Chine avait développé hein, la médecine chinoise, l'acupuncture, l'Inde, l'Ayurveda, l'Allemagne, toute la naturopathie, le pouvoir du chaud, du froid. ce que j'appelle la grande naturopathie. Il y avait des savoirs dans lesquels, tout à coup, l'enseignante, en dedans de moi, tombait dans ces expériences-là. Mm. Puis, avec cette notion, comment ça se fait qu'on ne m'a pas appris ça? Alors, je suis sortie de ce petit magasin d'alimentation naturelle là, qui était dans mon coin les années 60.
C'est ta mère qui t'avait amené là, n'est-ce pas?
Oui, c'est ma mère qui, avant de décéder, avait des problèmes de sommeil. Puis elle m'avait amené là. Puis j'avais... C'était un petit magasin avec des poches de toutes sortes d'affaires que je ne comprenais pas trop c'était quoi. Puis des odeurs. Il y avait des... Puis des livres. C'était vraiment pas chez Métro, là. Hein? C'était une... Et alors, elle m'amène là, elle, c'était pour résoudre son problème de sommeil. Alors, quelques années plus tard, je repense à ce petit magasin-là. Et c'est là que je vais découvrir des livres qui vont me faire un bien fou. Et durant que j'enseigne l'histoire, la géographie à mes jeunes, parallèlement à ça, là, je décide de faire une cure. Parce que, il semblerait que je suis intoxiquée. C'est un mot que je ne connais pas. Alors là, j'ai fait 2 jours de jeûne, 15 jours de raisin. Et écoutez, les 5 premiers jours, là, je filais pas. Tous les symptômes étaient exacerbés. Les douleurs des articulations et tout ça, la peau.
Mais t'as tenu. Tu tenais.
Mais c'était écrit dans le livre. Okay. C'est ça qui se passerait. Okay. La candeur de ma naïveté, mon ouverture, c'était écrit que oui, quand on fait ça, il va avoir des symptômes. Puis il décrivait. Alors, je lisais. Alors, le fait que je sois pas bien, que j'ai mal au cœur, même si je mangeais juste des raisins, c'était pas grave. J'étais pas inquiète. J'avançais là-dedans. Et au bout de 5 jours, là, il y a un voile qui se lève. Et c'est vraiment littéral. Un voile dans la tête. Le cerveau devient clair. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait des cures, mais c'est très particulier quand ça arrive. Tout à coup, il y a une espèce d'état de bien-être extraordinaire qui s'installe dans le corps. Physiologiquement, c'est très particulier ce qui se passe. Encore là, pas d'inquiétude. Parce qu'il y avait 2 livres, entre autres, que j'étais sortie avec du magasin d'alimentation naturelle. Le premier, c'était sur la cure de raisin. Mais le deuxième, c'était le jeûne du Dr. Shelton.
Donc, c'est un 3e livre.
Oui. Bien, ça, c'est... Je trouve ça extraordinaire à l'écoute.
Pas juste ça. Quand on rentre au Spaceman, qu'est-ce qu'on voit? Avant même de voir les préposés à la réception, des livres.
Oui. Parce que, profondément, c'est le savoir qui fait une différence dans une vie. Et sinon, on devient des places publiques qui ballottent de croyance en croyance. On a besoin de faire un chemin à l'intérieur de soi. Se renseigner, être curieux, complètement curieux, rester ouvert. Même si ce qu'on a appris, des fois, ça fait « Hein, ça se peut-tu? Voyons donc! »
Puis je sais aussi que le premier livre dont tu as parlé, là, L'aventure, la conscience... T'étais tellement fascinée par ce livre-là que t'en avais acheté plein de copies pour tes amis, puis leur réaction avait été ordinaire. Qu'est-ce que ça t'a dit, puis comment t'as réagi face à leur réaction, justement?
Je comprenais pas. Moi, c'est un livre qui a changé ma vie. Si on est en train de se parler ce soir, parce que c'est aussi que j'ai lu ce livre-là. L'aventure de la conscience. On a parlé des cures, l'alimentation. La conscience, c'est quoi? Que ça mange en hiver, cette affaire-là? Et ça m'a éveillée à un autre univers. On est dans les années 60, on commence à parler de méditation, de yoga, et là, il y a un chemin qui se dessine en avant de moi. Je réalise à quel point nous, humains, ben, on est le résultat des centaines de millions d'années derrière nous. Et il y a entre guillemets une conscience, on s'entend, qui s'est développée. Tu sais, je regarde mon chat, là, je vais arriver ce soir, il va m'attendre à la porte, puis il va me regarder. Il est présent. Bon, avant, on appelait ça de l'instinct. Peut-être qu'il veut des graines, là, mais je pense que mon chum va le nourrir. Tu sais. Non, il y a une présence, il y a quelque chose. C'est quoi ça, cette affaire-là? Et ce livre-là m'a amené dans une place à l'intérieur de moi où tout à coup, je saisissais, je vous dirais, le moment où on est dans l'histoire. Il y a eu avant. À travers des millions d'années, des milliers d'années. Puis il y a eu, dans les derniers millions, des Socrates, des Démosthènes, des grands philosophes. Il y a eu des périodes noires. grise sur la planète. Il y a eu des moments de conscience, la Renaissance, de la valeur, des grands poètes qui écrivent. Puis, à nouveau, des fois, ça rentre un peu dans, on va dire, une forme de noirceur. On se comprend quand je dis ça. Une forme de, mon Dieu, comment ça se fait? Écoute, Socrate écrivait ça, Platon écrivait ça. Puis on est encore en train de regarder des choses qu'on devrait avoir compris. Mais notre prétention d'humain pense qu'on l'a toute maintenant, qu'on est vraiment avancé. Étrangement, ça bouge pas vite. Ça ne bouge vraiment pas vite, incluant pour la santé. Alors, ce livre-là m'a permis de comprendre que si moi, j'arrivais à premièrement comprendre qui je suis, connaître qui je suis, peut-être que j'arriverais à faire un peu plus de pas. Et je pourrais aider ma famille. Parce qu'il y avait cette notion de mes frères, mes sœurs, comment je vais faire pour être une bonne personne avec eux autres. Je voyais mes limites. Je n'avais pas la formule. Comment tu fais? Alors, c'est sûr, ça a été dur pour ma famille parce que je suis partie 4 mois. Mais c'était comme le sacrifice à faire pour dire, OK, je veux devenir une meilleure personne, je veux comprendre comment l'humain fonctionne et je veux prendre du temps pour méditer. Alors, ça a été une job à temps plein, ma méditation. C'était 8 heures de travail. Hein, 8 heures
T'es
par
partie
jour.
En Inde.
Je suis partie en Inde. Je suis partie à un endroit qui, certains connaissent peut-être, qui s'appelle Auroville, Pondichéry. Et des fois, j'hésite à nommer Ashram Sri Aurobindo parce qu'on a un fantasme dans la notion d'ashram. Mais l'endroit où j'étais, c'était complètement libre-penseur. Et personnellement, je me sentais comme une athée. J'étais athée. Alors, je ne m'en allais pas chercher un gourou, moi, là. J'ai essayé de trouver un environnement qui ferait que je serais capable d'aller plus profondément à l'intérieur de moi. Puis comprendre comment les habitudes se créent, les habitudes de pensée. Comment ça se fait que si j'étais née en Amazonie, dans le bois, comment je serais dans mon cerveau? Je serais encore moi. Mais qui je serais, moi? Si j'étais née en France, qui je serais, moi? J'ai la chance de naître dans une famille simple, qui aimait travailler, qui avait du cœur. Mais je n'ai pas pu faire ce que je voulais comme étude. J'aurais aimé être danseuse. Plein de choses que j'aurais aimé. Je voulais être médecin, psychiatre. Mais là, ma mère est morte. Mes frères sont là. Je ne peux pas. Et étrangement, c'est peut-être une chance que je ne l'ai pas fait. Parce que ça m'a permis d'explorer plein de choses que j'aurais peut-être... J'aurais pas été capable. J'aurais été contente de faire les cours que j'ai suivis, mais j'aurais été pris dans une forme d'éducation. Hein? Je dis toujours comme exemple, si tu es un Chinois puis tu fais une dépression en Chine, à l'époque, ben tu n'allais pas voir un psychiatre. Tu allais voir un acupuncteur. Je suis sûre que ça avait donné des résultats. Alors, ça m'a donné de l'espace pour vraiment explorer davantage mon monde de croyances. Puis, et parallèlement à ça, l'enseignante en dedans de moi, ben écoutez, dans mes classes, là, je peux l'avouer maintenant, j'enseignais des blocs d'une heure et demie, j'avais demandé à la direction, écoutez, permettez-vous, je vais passer le programme, mais j'aimerais ça leur enseigner le yoga, la méditation. Et on m'a dit, oui, en autant qu'il n'y a pas d'élèves dans le passage. Tu couvres le programme. Écoutez, j'ai trippé là-dedans, mes étudiants. Puis je les appelais certains des rythmes zéro. Rythme zéro, là, tu pédales pour les allumer. Mais non, il y avait une soif d'apprendre. Et j'ai fait vraiment toutes sortes de choses parce qu'on a une soif d'apprendre.
Entre 15 et 22 ans, Jocelina va vivre de nombreuses expériences marquantes qui l'amèneront à concrétiser son rêve. Que ce soit son voyage en Inde, que ce soit l'amour. Mais ça commence avec la libération de ses obligations familiales.
Quand je suis revenue, j'ai vu frères et sœurs épanouis. Wow! Et là, ça m'a donné du courage pour repartir ensuite, un an, parce que je sentais que je n'avais pas fini. Mm. Quand je suis revenue, j'ai passé 5 mois, puis j'ai fait « OK, je n'ai pas fini. » Je sentais qu'il y avait un travail intérieur, j'avais besoin. Et ce travail intérieur, cette année-là, ça a été difficile. C'est comme là, tu rencontres ce que j'appelle ton ombre. Dans une démarche, on va dire spirituelle, t'as un coup de foudre, t'as quelque chose qui éclate, t'as une espèce d'état qui se place, puis des prises de conscience, puis tu comprends la vie plus, puis tout ça, là, avec beauté et bonheur. Et tout à coup, quand il y a un travail de fond qui commence, c'est notre ombre qu'on appelle l'inconscient. Des fois, moi, je dis, on est une place publique. Toutes ces croyances qui sont là, puis on se comprend pas trop, le cerveau, comment ça marche, cette bébite-là. Alors, la deuxième année, tout ça pour dire, a été difficile, mais je l'ai faite. Mais toujours avec la détermination de méditer, puis tout ça. Pas évident. Il y en a peut-être qui déméditent ici, là. Des fois, au bout de 20 minutes, on a le goût de lâcher vite. Là. Puis, mais tu sais, au bout d'une heure, tu as le goût de lâcher vite, vite, vite. Au bout d'une heure et demie, tu as encore le goût de lâcher vite, vite, vite. Puis qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui se passe? C'est des démarches extraordinaires, mais pas évidentes. Puis je le dis parce que c'est la même chose avoir une entreprise, c'est la même chose avoir une relation de couple. Il va y avoir des nœuds qui vont se placer, puis comment on prend soin de nos nœuds. Hein? Alors, j'ai eu la chance en même temps d'avoir des outils qui vont se placer dans ma vie. Mm-hmm. Et alors, j'ai fini par revenir au bout d'un an. Et là, le rêve est en dedans de moi. Il avait été semé avant, le goût de créer un endroit où les gens viendraient se ressourcer. Maintenant, je reviens de l'Inde, j'ai donné ma démission à l'école, j'ai pas de salaire, moi, là. J'avais 5000 piastres dans mon portefeuille, les années que j'ai pas travaillé, il y a plus rien. Comment on fait? Alors, tu fais un emprunt à ton père, tu sais, love money, ça existe, hein? Puis comment tu vis? Et là, je me dis, parce que j'ai changé mon alimentation, là. Je suis devenue complètement vegan, du jour au lendemain. Le mot vegan n'existait pas, c'était végétarien à l'époque. Mais c'est vegan, t'as pas d'œufs, t'as pas de fromage, t'as pas des légumes, des céréales, des tout ça. Et là, faut que je vive. Mais je suis pas inquiète. Alors...
T'as quel âge à ce moment-là?
Là, je dois avoir 25 mm-hmm. ans. Et avec cette amie qu'on s'était rencontrée, elle aussi, elle avait un rêve comme ça, comme le mien, mais qui était complètement différent. On est deux natures très, très différentes. Et je fais des biscuits pour vivre. Elle a eu un héritage. Fait qu'elle est correcte, tu sais. Elle peut acheter mais moi, j'ai pas eu d'héritage. Je veux pas rentrer dans tous les détails. Écoutez, on va être là jusqu'à demain matin. Mais tout ça pour dire que les fondations du Spaceman, c'est des petits biscuits à 25 cents. Vous m'entendez, les jeunes? Peut-être que ça sera une pièce et demie maintenant. Les biscuits. Alors, je travaille une journée par semaine. Je fais des biscuits santé. D'ailleurs, là, mais j'ai été fait à développer. Ils sont, si vous venez au Spaceman, vous allez voir, ils sont sur le comptoir.
À côté des livres.
Ah oui. Puis c'est écrit, ces biscuits ont une histoire. Mm. Parce que mon père a beau me prêter de l'argent, il faut que je le rembourse. Tu sais,
Mais quand même, tu fais juste des biscuits une fois par semaine.
Une fois par semaine.
Le restant du temps, tu
fais du yoga, de la méditation, du sport. Là, je sais juste que c'est important aussi de s'entraîner. Je peux moins faire de yoga. Je me suis blessée à des places. Puis le sport, comment on bouge. Va courir en montagne. C'est un art de vivre qui se développe. Mm. Faut payer à la maison aussi. Puis c'est correct. Alors, j'ai un ami qui me passe son camion. J'y donne 5 piastres, ça couvre le gaz, puis je fais mes livraisons de biscuits. J'ai pas de compétiteur. Magasin d'alimentation naturelle, des bons biscuits de même.
Comment tu penses des biscuits à la maison canadienne, hein? Dans celle dans laquelle j'ai logé au mois de février, qui est la première maison? Comment ça se passe? Et parle-moi de ta première journée. Je sais pas si c'est un souvenir de ta première journée. Tu fondes le Spaceman ou tu fondes le spa, ou il s'appelait pas le Spaceman à l'époque, mais tu fondes cette entreprise-là. C'est quoi ta vision?
Ce qui se passe, toujours méditante, bien solide, là. Et je rencontre quelqu'un et je tombe en amour, mais solide. Tu sais, tomber, dans mon cas, ça a été vraiment tomber. Du jour au lendemain, tu médites plus, puis tu fais l'amour, là, tu sais. On peut rire, hein? Blague à part, c'est une rencontre. Il y a des rencontres dans la vie, hein? Il y a des rencontres. Et lui a l'endroit où je suis. Il rêve de faire quelque chose. Mais moi, je veux pas faire ça, là. C'est particulier, tu sais, hein? Pour toutes sortes de raisons. Et ça m'a pris... quasiment 2 ans avant d'être, de faire « OK, c'est peut-être là que je vais faire ce que je veux faire ». Il y a des défis de couple importants. Autant c'est quelqu'un que j'honore profondément, qui a été dans ma vie, mais ça a été une rencontre aussi qui a été très difficile. Puis un jour, il faisait faillite. Et puis là, moi, j'ai vendu ma maison à Montréal, puis j'ai pu remettre l'argent dans l'entreprise. Puis écoutez, je suis en train de mettre ça sur un balado, c'est bien particulier, n'est-ce pas, hein?
Mais ça fait partie de l'histoire.
Ça fait partie de l'histoire. Mm-hmm. Et là, j'ai vendu ma maison. C'est pour ça que je dis, les fondations du Spaceman, c'est des petits biscuits à 25 cents. Mm.
Mais il y a quelque chose que tu dis, là, qui est extraordinaire. Tu parles toujours de l'importance de l'ancrage, puis du fil que tu tires de l'ancrage. Donc, toutes ces années-là, jusqu'à l'âge de 25 ans, c'est ton ancrage que tu découvres, que tu crées, et le fil, c'est ce que tu va éventuellement...
Que je tire dessus.
Que tu vas fonder, là, tu vas fonder le spa là-dessus.
Oui.
Et tout le reste de ta vie va être autour de ce fil-là.
Complètement. C'est ça qui a fait que malgré des décisions, des fois, qui ont été des échecs, parce qu'il y en a eu aussi, mais c'était toujours avec la motivation de faire rayonner la mission du Spaceman profondément. Puis ce que j'appelle mission... c'est vraiment que l'humain qui est en avant de moi découvre l'importance de l'alimentation profondément, découvre l'importance de s'occuper et de se découvrir qui la personne est profondément à travers toutes sortes d'outils. Parce que là, il y a plein d'outils qui vont arriver dans ma vie que j'en reviendrai pas. Je pourrais vous en nommer jusqu'à demain matin. Des choses qui m'aidaient à être plus ancrée dans mon corps.
Nommez-en quelques-unes qui ont été marquantes.
Le focusing. Les rêves. Comment les rêves parlent. Découvrir le massage. Écoutez, on est dans les années 70. Je découvre le shiatsu. J'ai mon premier shiatsu dans une classe où tout le monde fume. Je suis malade après ça. Parce que je ne vis pas dans la boucane, moi, là. Mais je découvre cet outil-là. Puis je fais, wow! C'est ancré sur des circuits du corps pour libérer des tensions. Moi, là, le massage prend toute une autre ampleur dans ma tête. Après, je découvre le massage suédois. Wow! J'en reviens pas. Je décide de prendre une formation en massage pour être capable d'embaucher du vrai bon monde. Je connais rien. On s'entend? Je ne connais rien. Alors, j'ai découvert le toucher à travers les... Mais il y a eu plein de choses, comme je pense, entre autres, le focusing, qui est un art extraordinaire pour apprendre à se sentir. Comme là, en ce moment, je suis en train de vous parler, vous avez une forme de senti. On pourrait décider de prendre 30 secondes, 5 secondes, puis là, tout à coup, vous mettriez un mot là-dessus. Et quand vous trouveriez le bon mot, vous feriez « Ah oui, c'est ça que je sens, là. » Alors, je découvrais tout à coup que le corps a différentes façons de parler. Comment je fais pour mettre ça en place? Alors, il y a eu des formations qui sont faites de tout ordre. Chez nous, dans une formation durant un an et demi, hein, parce que je voulais avoir des employés formés. Comment tu fais? Comment tu fais? C'est où? Tu vas apprendre où?
Comment tu peux leur faire confiance?
Alors, ben, on va faire une formation durant un an et demi, 5 jours semaine. Mm. C'est une cohorte de 12 personnes. Mm. Masso, de tout ordre. Les rêves, les approches psychologiques...
Puis aujourd'hui, c'est d'autres choses. C'est le chaud, le froid, l'importance du froid.
Bien, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que la vie se dévoile devant nous. Mais quand on la met dans une boîte, puis qu'on pense que c'est juste ça, ça va être juste ça. Mais quand on se donne de la chance de prendre des petits risques, parce que je ne savais pas où je m'en allais, mais j'avais un senti. Tu sais, après mon premier shiatsu, hey, ça fait-tu du bien ou ça ne fait pas de bien? Vous avez peut-être déjà eu un massage. Ça fait-tu du bien ou ça fait pas de bien? Vous avez peut-être pas eu le bon masseau. Vous avez peut-être eu le bon masseau. Puis c'est comme... Après, là, quand ça fait du bien, vous dites pas, oh, ça fait du bien. Non, non.
Ça fait du bien.
Oh my God! Puis je pourrais vous parler de là où on est rendu. Ben oui, une douche à l'eau froide. Ouh! Déjà, et comment on explore ça? Non, le corps parle. C'est juste si on s'enlève d'un jambe. Là, tout à coup, il y a des choses qu'on va se mettre à entendre, saisir, comprendre. Puis ça va juste venir d'en dedans. Puis quand il y a des façons de... avec les années, on comprend que quand tout à coup, ça dit oui en dedans, faut premièrement regarder c'est qui dit oui. Des fois, c'est la tête, puis on est excité. C'est pas de ça que je parle. C'est quand tout à coup, il y a quelque chose de fondamental en dedans qui donne un profond courage, puis que ça dit oui en dedans. Puis des fois, c'était peurant. Mais en même temps, il faut donner le temps au temps, le faire de la bonne façon, tranquillement, pas pressé. J'aime aussi dire souvent, on est pressé, prenons le temps de bien faire les choses.
Oui, nous sommes pressés. Un des secrets de Jocelyna est d'ailleurs ses 60 ans à apprendre, à expérimenter et à transmettre. C'est ce qu'elle a fait toute sa vie et ça continue aujourd'hui.
Et c'est ça qui a fait que le spaceman s'est dessiné. Building the bridge as you walk on it. Construire le pont au fur et à mesure que vous avancez.
Ouais, d'ailleurs, je me suis dit, après presque 50 ans en affaires, comme chef d'entreprise, combien de crises as-tu vécu? Puis peux-tu nous parler d'une? Une crise qui a été vraiment difficile pour
toi?
Oh
mon Dieu, j'en ai eu tellement. Quand je suis devenue actionnaire unique, j'ai acheté mon partenaire. Et là, tout à coup, tu vas avoir du financement. Et là, il n'y a rien qui arrive. Il n'y a rien qui se passe. Pourtant, on me connaît. Mais là, tout à coup, ce n'est pas un homme qui signe. Puis à l'époque de mon maintenant conjoint, qui est extraordinaire, mais c'était mon chum, c'était mon amoureux, c'était mon amant, tu sais, hein? On va dire ça de même. C'était mon amoureux. Mais il y avait un beau CV. Il faut possiblement qu'il y avait un beau fonds de pension. Alors, ils veulent que ton chum signe. Il n'est pas actionnaire, rien. Alors, cette fois-là, j'avais dit au banquier, il était trois devant moi, là. Et là, ils me disent, mais c'est parce que votre conjoint devrait signer. J'ai dit, regardez, bien tranquille. Puis j'ai dit, j'imagine que quand M. Pierre Pelladeau va vous voir, vous demandez à sa maîtresse de signer. Cru de même. Prenez-le pas personnel. Pourquoi je le prendrais personnel? Non. Matter of fact, il n'était pas actionnaire, rien. L'entreprise allait bien. Fallait. Alors ça, on est en 97, 96. On n'est pas dans la préhistoire, là. Ça fait 20 ans que l'entreprise existe. On est dans un projet d'expansion magnifique. Écoutez. Et il y a eu... ça a été difficile. Et après avoir fait 9 plans d'affaires, c'était les premiers plans d'affaires que je faisais de ma vie, je n'avais jamais fait. Au 9e, la BDC, puis là, une petite publicité pour la BDC, le directeur de l'époque, de Général, me dit, écoutez, j'ai une bonne nouvelle, pas une mauvaise nouvelle. OK, on commence-tu par la mauvaise nouvelle? Oui. Je quitte la BDC. La bonne nouvelle, vous devenez mon premier client, puis je vais m'arranger pour que vous ayez le financement. Ça, là, c'est un homme, jeune, et c'est extraordinaire. Ils m'ont financé d'une façon exceptionnelle, hors catégorie. Le gars connaissait tous les chemins. Un conseil, s'il vous plaît, entourez-vous de professionnels qui sentent qu'ils vous aiment et qui sont prêts à se battre pour vous. Ça, ça a été une aventure extraordinaire. Ça a été une mutation. Ceci dit, ça demeure toujours jamais évident.
Oui. On pourrait parler.
On pourrait en parler jusqu'à demain matin.
Sur la pandémie, entre autres.
La pandémie, pour moi, a été à la fois... Ça a été extraordinaire. Extraordinaire personnellement. Un coup que tu as sécurisé les finances, t'as emprunté. Parce que tu sais pas. Aucune idée. Puis là, il faut que tu bouges vite. Le compte de banque s'est vidé tout d'un coup. Nous, si vous réservez chez nous, quand vous allez réserver, vous allez payer. C'est comme un billet d'avion. Hein? Vous voulez avoir votre place. Puis là, du jour au lendemain, bang! Mais là, le reste continue. Alors, un coup que ça s'est sécurisé, puis à partir de ça, J'ai vraiment fait un travail extraordinaire. Et c'est là que c'est important d'utiliser le temps qu'on a pour faire des pas en dedans de soi. J'avais une occasion. Le spa était vide. Et j'avais 3-4 personnes, là, tu sais, il faut quand même... DG était là, puis... Et pouvoir dessiner mon prochain pas. Puis je ne sais pas c'est quoi mon prochain pas. Parce que la seule chose que je sais, c'est que pour passer à travers, mon système immunitaire a besoin d'être en forme. J'ai besoin d'être sa coche. Personnellement, comment je vais faire? Bien, là, j'ai découvert plein d'approches que je ne pratiquais pas vraiment. Et là, j'ai pratiqué des techniques de respiration extraordinaires. Wim Hof, qu'il y en a peut-être qui connaissent, peu importe, des Iceman. Et j'ai découvert, je veux dire, un amant mal aimé, le froid. Un amant mal aimé. Et je dois vous dire que le Québec est très riche en froid. Et on se sauve de cet amant tout le temps. On s'en va dans le sud, on revient, on a la grippe, on est fatigué, on a besoin d'une autre semaine de vacances. Hein? On connaît tous le cinéma de ça. Notre système de pensée, comment est-ce qu'il est fait. Et là, bien, extraordinaire, je ne peux pas voyager, je ne peux pas aller nulle part, je suis chez moi. Des pratiques, j'ai découvert plein, personnellement. Et là, j'ai avancé dans des chemins pour comment on fait pour se rendre en forme, le fun, bien gérer le stress s'il y en a. Et ensuite, quand, ah, ça pourrait être bon que je parle de cette pratique-là, parce que ça a été 3 mois et demi fermé, avec une équipe qui est chez nous, puis on prend soin. On prend soin des bâtiments, on prend soin... On dessine un livre de recettes, on a fait la cuisine tonique. On avait le temps. Le chef, il venait 2 fois par semaine. Viens donc faire la cuisine, Jean-Marc. On va faire des belles recettes pour notre livre de recettes. Profiter de ce qui semble quelque chose de difficile pour en faire un tremplin. Alors, on a développé un livre de recettes qui s'appelle la cuisine tonique. Et ce qui s'est passé, c'est quand on a recommencé, on est content d'ouvrir, mais pour l'hôtellerie, ça a été très difficile. Tout cassait constamment. Le restaurant marche plus. Les réservations rentrent, ça marche plus. Le restaurant n'a plus le droit d'être. La cuisine peut fonctionner. Nous, comme hôtel, on aurait pu ne pas fermer. J'ai fait le choix de fermer, donner un break à tout le monde. Puis là, comment tu prends soin de ton personnel qui n'est pas là? Ça a été aussi, je vous dirais, un moment magique pour moi. Parce qu'un matin, je me lève au bout d'un mois et demi, puis je fais « Ah! Comment sentent les animateurs? Comment... Ils sont tous seuls chez eux? Comment ça se passe? » Ben vraiment, moi, je suis bien, là. Eux autres, comment ils... C'est ta richesse, c'est tes forces vives. Alors, de ça est née une chose que j'avais jamais faite. Rencontre par team. Comment ça va? Et là, pour moi, ça a développé quelque chose de vraiment précieux, personnellement, un lien à un autre niveau, où on pouvait se dire les vraies affaires, puis comment chacun prenait soin de soi, personnellement, puis comment il y en a qui c'était difficile, comment on regardait qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais on a développé ensemble des choses. Mais j'étais gauche là-dedans, je ne savais pas comment faire ça. Mmh. C'est mon DG qui m'accompagnait. J'étais gauche, je savais même pas comment traiter la réunion. Mmh. C'est pas ma fonction de faire ça. Mais ça a été une occasion extraordinaire de faire des liens à un autre niveau qui m'a aidée. Et quand on a recommencé, les clients étaient enchantés, mais ils arrivaient dans la peur. Comment on fait? Comment on fait pour les sécuriser? Tout le monde arrivait, personne n'arrivait à la même place. Les employés et les clients. Première cliente qui réserve, 18 jours. Elle réserve 18 jours, elle veut qu'on aille lui porter ses plateaux à la porte de sa chambre. Et là, dans sa vie, on ne sait pas les conditions que les gens vivent. Alors, c'était, on reste ouvert, on essaie de faire du mieux qu'on peut pour créer de la magie, de la beauté, mais on sait que quand nos clients se promènent dans le bois, c'est la meilleure affaire qui ne peut pas leur arriver. Prendre de l'oxygène. Comment on va faire ensuite pour donner nos classes? Écoutez, on a loué un chapiteau, là. On pourrait faire un party avec 500 personnes là-dedans. C'était pour 18 clients. Mais c'était ça! Comment on fait, comment on fait, comment... Et une des choses que moi, personnellement, m'a profondément aidée, à travers les pratiques que j'ai quotidiennes, hein, un outil qui m'aide à passer à travers les choses. Et ça s'appelle la pratique du cœur créateur. C'est Denise Noël, cette thérapeute que j'ai connue il y a 50 ans, hein, qui a eu toute une démarche et qui, elle, est devenue coach, psychothérapeute, puis coach. Puis... Mais elle a développé une approche qui est très unique à mes yeux, vraiment, pour en connaître beaucoup de tout ordre. Mais elle amène le client à une place, à sa place de profonde, je dirais. C'est... Je ne sais pas trop comment l'expliquer en ce moment, mais l'exercice m'a aidé à passer à travers. Cette pratique du cœur créateur, c'était, OK, un employé qui arrive là, puis qui n'est pas bien dans sa tête. Tu aurais le goût d'y couper la tête, tu sais. Hein? Comment tu... Il va prendre soin du monde, comment tu vas faire? Tu ne peux pas avoir cette réaction-là. Mais il faut que tu l'explores en dedans de toi. Tu ne peux pas faire à croire, ah, non, non, je vais passer par-dessus. Oui, oui, mais c'est... il va y avoir quelque chose qui va se construire dans le cadre de stress, de tension. Tu vas sourire faussement. Tu vas être mal. Alors, il faut prendre le temps de commencer à accueillir cette place qui souffre puis qui ne sait pas comment accueillir. L'employé fait du mieux qu'elle peut, mais c'est tough pour elle. Alors, elle sert, à mes yeux, elle ne sert pas bien le client. Les clients ne le reprochaient jamais. Parce que les clients, déjà qu'on soit ouvert, c'était comme... L'oxygène. Mais moi, je voulais qu'il soit très bien. Alors, c'est une approche qui me permettait d'aller chercher en dedans de moi les réactions que j'avais, les sortir, puis aller chercher le cadeau en dessous. Puis peut-être, si on jamais on a du temps, on pourrait s'en parler. Mais ça, là, c'était ma survie. Mm-hmm. Alors, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, puis que je sentais que c'était inadéquat, je me donnais un rendez-vous le lendemain matin en disant, je vais aller faire un corps créateur avec cette situation-là. Je vais la nettoyer. Je n'avais pas le temps de le faire là, mais je vais la nettoyer pour après que mon énergie qui circule, que je sois bien. C'est du travail. Mais en même temps, je n'avais pas le choix. Ça passait ou ça cassait.
Comme quoi, les épreuves apportent leur lot de découvertes. Et après les crises, le beau temps.
J'aimerais ça que tu nous parles de moments heureux. Puis j'ai l'impression que la cuisine est quelque chose d'heureux au Spaceman. C'est extraordinaire, la cuisine que vous avez. Et l'autre, c'est les oasis. Peux-tu nous parler des deux? Parce que c'est deux choses, je trouve, qui... vraiment, là, donne un vent de fraîcheur à l'organisation, oui. Puis qui met un sourire dans le visage, vraiment, les deux éléments. Parle-nous-en.
Alors, on commence par la cuisine tonique. Alors, en fait, bon, vous avez entendu que la cuisine, pour moi, ce qu'on mange est profondément important. On est biochimique, hein? Bon, on n'est pas tous pareils. La biochimie est unique à chacun. Quand je dis biochimique, c'est votre calcium, votre magnésium, les minéraux, les oligo-éléments. Tout ça, comment ça marche, cette affaire-là? T'sais? On le sait maintenant que l'intestin, c'est... Il parle du deuxième cerveau. Puis le docteur Seignalet a même déjà dit un jour, je pense que c'est le premier cerveau. OK? C'est des hormones qui se sécrètent là, puis qui est bon, c'est magique. Alors, l'alimentation a toujours été quelque chose que... C'est là. Je suis pas en train de lire... là-dedans tout le temps, pas du tout. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais un jour, en 94, je fais de la fibromyalgie. Le médecin, au hasard, c'est un médecin qui était chez nous comme client puis qui me dit, « Madame, je pense que vous faites de la fibromyalgie. Je connais rien là-dedans, moi. Hein? » Il m'invite à son bureau, va passer les tests. Son diagnostic, c'est fibromyalgie. Et je pouvais me lever le matin, là, pas être capable de sortir du lit, quasiment mal au dos. J'avais jamais eu mal au dos. Ou tout à coup, c'est dans les jambes. Ça se promène, les douleurs se promènent. OK. Je fais une cure de jus vert, c'est ce que je connais de mieux, au bout d'un an, parce que lui, il sait pas quoi faire. Tous les symptômes disparaissent. Tous les symptômes. OK. Parce que je veux pas être sur jus vert toute ma vie, moi, là. Hein? C'est... Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je recommence à manger. la bonne cuisine, on s'entend, là. Le pain au levain, du bio, oui, des viandes, poissons. C'est à ce moment-là que j'ai réintroduit de la viande, puis des poissons au Spiceman pour réaliser que j'avais besoin de protéines animales aussi. J'ai été végétarienne durant 25 ans. Ça a changé de quoi? C'était important. Je sais qu'il y a une tendance de fond sur le vegan. J'ai mes bémols là-dessus, mais ceci dit, oui, il faut manger vraiment plus de légumes. Oui, il faut bien manger. Bon. Et là, ça s'améliore, mais j'ai des tendinites des fois, une bursite. Puis je suis consciente que le système ne fera rien pour moi, là. Bon. Il m'avait donné des pilules pour dormir, mon sommeil était affecté, mais non narcotique, je n'avais pris, c'est correct. La pilule est là pour aider quand c'est le temps. Mais on ne veut pas que ça soit une béquille toute une vie. Comment tu vas faire après ça? Et c'est juste en 2009, une naturopathe chez moi me dit, lis ce livre-là. Ça s'appelle « L'alimentation, la troisième médecine ». Je vous conseillerais d'autres livres avant. Une brique. Les jeunes étudiantes en médecine, ça peut être vraiment intéressant que vous lisiez ça. Et lui, grand chercheur, premier qui a fait les greffes de reins en France.
Signalet.
Docteur Signalet. Mais il publiait des papiers dans des grandes revues médicales, tout le kit. Et son intuition, c'est est-ce que ça se pourrait que c'est l'intestin qui est devenu... Puis je rentre dans des détails, mais je pense que c'est important de le comprendre parce que c'est pas un beau matin, je me suis levée puis j'ai fait, oh, regarde donc ça, ça serait le fun d'être sans gluten, sans protéines laitières, c'est la dernière mode. Moi, ça, les modes, je ne les ai jamais suivies. Je regarde les recherches, je l'expérimente, je rencontre du monde, des chercheurs qui ne sont pas financés par l'industrie, des vrais chercheurs, ce que j'appelle des vrais chercheurs. Puis ça, ils ne sont pas obligés de dire toute la même chose, pas du tout. Mais ils cherchent. Puis ils ne découvriront pas tous la même chose. Vraiment, il y a plein de choses très intéressantes. Et ça, ça a été long pour moi de le comprendre. Alors, c'est tout ce savoir. Waouh, ça se peut-tu qu'on a besoin de faire un retour aux sources? Et moi, je lis juste le chercheur. Puis lui, sa piste de recherche, c'est pas de gluten, c'est-à-dire le blé, le seigle, l'orge. Bon. Et pas de protéines laitières, caséine. Je parle pas du lactose, ça c'est autre chose. Pas de caséine. Parce que on n'a pas été fait pour être nourri au biberon de la vache. C'est un jeu hormonal du fromage. Vous me suivez? Comment c'est fait, le fromage? Ça vient, c'est un jus, hein? J'appelle ça un jus hormonal, c'est peut-être pas le bon nom. Puis on fait du fromage avec ça. Puis c'est correct. Ça a sauvé la population de sa planète dans des temps de crise, de disette. Mais nous autres, là, le jus hormonal, on le met à toutes les sauces maintenant. La protéine laitière est partout, n'importe où, n'importe quoi. De tout. Plus en plus, le bon petit fromage. C'est correct, là. Mais c'est sa piste de recherche. OK? Pour moi, ça attache les fils en dedans de moi. Et sa pensée, c'est que parce qu'on mange des molécules qui ont de la difficulté à être assimilées par le corps, l'intestin, c'est... Il y a une fine couche cellulaire, là. C'est fin au-dessus. Bien, si on mange des choses qui ont de la difficulté à s'assimiler, ça se peut-tu que ça va faire des trous, entre guillemets, faire un trou d'une cellule, hein? C'est pas grand-chose. Puis que là, il va y avoir des molécules qui vont aller dans la lymphe, dans le sang. Et selon votre génétique, entre autres, bien, vous, ça va vous donner des migraines. Ça va créer de l'inflammation. En fait, c'est un processus qui devient pro-inflammatoire. Mais en gros, c'est, il y a des choses qu'on mange, le corps il fait vraiment du mieux qu'il peut, mais il n'en peut plus. Bon, on y a mis peut-être 85 000 nouveaux produits chimiques qui n'ont pas été faits pour digérer. Et là, le corps il fait du mieux qu'il peut. Mais là, il va y avoir des dépôts qui vont se faire à une place, des dépôts qui vont se faire à un autre. Ça va alourdir telle chose. Et selon la génétique, entre autres, bien là, tu vas avoir mal à la tête. Tu vas avoir de l'arthrite, de l'arthrose.
En tout cas, moi, ce que je constate, là, c'est ce que tu manges te met en pleine forme.
Merci. Alors, je finis
Je t'écoute, là, puis je suis comme... Elle est incroyable. Continue.
Alors, lui a fait son étude, et c'est ça que je trouve magnifique. Il a suivi durant 20 ans. T'es un homme éduqué, là, hein? Une grande pointure en France. Et là, il va suivre durant 20 ans 2500 patients. Il va tester 115 maladies. 115. Ces dames qui étudient en médecine seraient capables d'en nommer beaucoup. Moi, si j'en nommais 25, ça serait beau. Puis il y en a qui vont rentrer en rémission à 100%. Exemple, l'arthrite, 100%. Puis la majorité de ces maladies-là, ces 115, il y en a 91 qui vont rentrer en rémission à plus de 80%. Ça, là, moi, j'appelle ça guéri. Alors ça a été une pierre angulaire et ça a fait que je me suis mis à rêver de créer une cuisine gastronomique. Puis ma blague, c'est quand la gastronomie remplace les médicaments. C'est une blague, on s'entend. C'est comment je peux vraiment prendre soin de ce laboratoire. Et là, on a développé une cuisine, on a gagné des médailles avec ça. Et on n'est pas très connu. Ça s'appelle la cuisine tonique. C'est pas grave. C'est juste que nos clients l'expérimentent. Et la majorité de nos clients ne savent pas qu'on fait ça. Ils vont juste dire... C'est incroyable comment je me sens bien. Mon Dieu, on dirait que j'ai dégonflé. On le voit particulièrement chez les diabétiques de type 2 qui se piquent. C'est leur machine qui va leur dire « Oh, t'injectes plus de la même façon, ma cocotte. Il y a quelque chose qui se passe. Mon Dieu, t'es bien en forme. » tu sais. Alors, j'ai vu ce que ça faisait. On n'est pas un hôpital. Pas du tout. On est là pour créer du bonheur, du bien-être puis expérimenter. À partir de ça, oui, je rêve que les hôpitaux fassent ça. Oui, je rêve que les CHSLD cuisinent comme ça. Oui, je sais maintenant, il y a de la recherche fondamentale au niveau de l'Alzheimer. Je pourrais vous en parler jusqu'à demain matin. Extraordinaire. Extraordinaire ce qui se passe. La rétrograde par rapport à l'Alzheimer. Des grands chercheurs, Dr. Bredesen. Fait que c'est sûr que je trouve ça le fun. Puis c'est-tu le fun de pouvoir manger des affaires? Puis ça te fait du bien.
Vous pouvez découvrir sa cuisine au Spiceman, bien sûr, ou encore dans le livre qu'elle a publié. Passons maintenant à sa passion pour l'environnement. Justina avait établi son premier pavillon écologique en 1981. Et tout récemment, ce projet a pris de nouvelles dimensions avec les oasis.
Tout à coup, il y a des rencontres inespérées. Un vieux rêve que tu avais. Tu pensais que ça serait pas possible. Il est là, il dort, d'un carton. Les bonnes personnes arrivent au bon moment. Puis pouf, un miracle arrive. Je suis sûre que vous avez déjà vécu des choses comme ça. Mais il faut faire de la place au miracle. Puis des fois, quand on s'accroche trop à nos rêves d'une façon obtuse, on le tue. Il faut être capable de lâcher prise. Ils disent, hein, les femmes qui veulent avoir des enfants, tout à coup, ils arrêtent, puis pouf, ils tombent enceintes. Mais il y a une nécessité de lâcher prise, de laisser circuler l'énergie. Puis en même temps, il y a quelque chose qui se passe des fois dehors. C'est ça, la beauté. Parce qu'en quelque part, on est comme tous un peu reliés les uns les autres, mine de rien. Alors, ces gens-là, ces solutions erreurs, qui étaient membres chez nous, puis eux autres, c'était leur rêve de faire ça, mais ils étaient membres, puis ils étaient sur des projets. Mais moi, je les voyais jamais. Ils étaient membres, puis ils venaient s'entraîner le matin, puis ils découvraient notre cuisine. Ils capotent sa cuisine, ils décident de suivre des cours sur cette cuisine-là. De fil en aiguille, j'ai des cours. Moi, je devais agrandir, je devais faire ajouter un 20 chambres, on avait besoin d'espace. Et là, un rêve inespéré. Étonnant. Ces pavillons qui sortent du sol sont de toute beauté. J'ai la sensation qu'on est en train de créer Spaceman 3.0. Et c'est la vie qui tire ça dans la beauté. Ces pavillons-là, qu'est-ce qu'ils ont? C'est à 8 minutes de marche. Pour vous rendre au pavillon, vous devez marcher d'un sentier éclairé, mais c'est dans la forêt. Puis quand vous arrivez dans le pavillon, c'est comme il est tout entouré d'arbres. T'es ailleurs, complètement moderne, fait avec des produits écologiques, des murs en ardoise à l'extérieur, les planches à l'ardoise à l'intérieur, isolés au chanvre, c'est solaire passif, panneaux solaires, avec la capacité éventuellement de vendre de l'électricité à Hydro-Québec. On aime-tu ça? C'est la vengeance. Mais mon choc, Puis le premier a ouvert au mois de février. Et c'est au mois de juillet, tout à coup, je suis en train de faire visiter. Et là, sur la terrasse de 1, je découvre tout d'un coup que c'est « wow ». C'est la place parfaite pour du corpo mieux-être. Mm. On amène le monde dans un autre univers. Les pavillons ont 6 chambres, mais il y a un sauna infrarouge dedans. 40 % c'est les chambres, 60 % c'est l'art de vivre. Mm. Salle de réunion, entre guillemets, ou de yoga, ou de terrasse qui donne sa forêt. Et ça met tout en valeur la nature, parce qu'un facteur majeur dans notre bien-être, c'est ce nouveau, ce contact avec la nature. Profond. Marcher du pied, là. Être capable de marcher du pied en jardinant. Tu sais, être capable d'enlever nos souliers, être capable de respirer l'air pur, être capable de bénéficier de ce qui se passe dans une forêt. Il y a les Japonais ont fait des études là-dessus, hein, les bains de forêt, Shirinyoku. On fait de ça maintenant. Mais comment tu fais pour créer un environnement pour que le corpo puisse l'apprécier profondément, découvrir notre cuisine, tout en sentant que quand ils sont dans leur pavillon, ils peuvent avoir du fun. Là, on vient de créer un environnement. Puis ça, c'était tellement pas dans mes... C'était pas planifié. Building the bridge as we walk on it. Tout à coup, la vision se développe au fur et à mesure. Puis il faut laisser de la place pour ça. Hein?
Pour y avoir logis, chapeau.
Oui. Okay,
chapeau.
Okay.
C'est magnifique.
Okay.
On pourrait continuer longtemps. Hein? J'aurais eu plein de cas d'autres questions. Elle a des histoires incroyables sur les hommes et le spa. Est-ce que vous voulez l'entendre? Comment elle a convaincu les hommes de venir au Spaceman? Puis après, on passe au questionnaire brave. Parle-nous des hommes et des spas.
Bien, d'un, je dois vous dire que c'est tellement plus que c'est maintenant. On a un gros pourcentage de clientèle masculine. Et d'ailleurs, souvent, j'ai reçu des journalistes des États-Unis, puis ils disaient, comment vous faites pour avoir des hommes? Parce que c'est souvent, aux États-Unis, c'était toute la notion de beauty. Hein? Peu importe à moins d'être médical. Mais si vous alliez d'un spa, c'était thrill, les femmes, maquillage, beauté, la cellulite, maigrir, les femmes. Moi, ça n'a jamais été ça. C'est l'être humain. La place est créée pour des êtres humains. Et naturellement, c'est les femmes qui ont plus d'ouverture. Ça, c'est à cause de qui on est dans la vie. Puis la mère en nous qui veut soigner puis qui veut aider. Alors, un jour, on est à la fin des années 90, à Montréal, dans un bel hôtel. L'hôtel Bonaventure. Je fais partie d'un club. Un club privé. Il y a 150 propriétaires d'entreprises, surtout des hommes. À 95 % des hommes. On nommera pas l'entreprise. Anglophone, homme. Puis on m'invite comme conférencière. Et alors, pour expliquer ce que je fais comme travail, moi, ça s'adresse aux hommes, aux couples, à tout le monde. L'humain. Fait que ça fait 5 minutes que je parle, puis je regarde tout le monde. Tout d'un coup, c'est comme, oh, maintenant, vous devez être en train de penser, oh, my wife will love it. Ma femme va adorer votre classe. La salle se met à rire. Je sais que je viens de dire de quoi. Et j'ai dit, je vais vous dire, oui, les femmes prennent soin d'eux autres, mais je vais vous dire ce qui se passe. Vous autres, oui, si votre femme prend soin d'elle, vous autres, vous préférez aller à la chasse, à la pêche. Mais ça ne vous empêchera pas de faire des crises cardiaques. Hein? À l'époque, c'était les hommes mouraient des crises cardiaques. Mais la vraie raison pourquoi vous ne venez pas. Puis là, j'ai pris mon courage à deux mains. Je sais que je parle à c'est des hommes. Puis je sais que je vais les mettre mal à l'aise. À mes yeux, ça suffit. Peut-on nommer une table une table? Et souvent, il y avait cet humour des hommes. « Ah, oh, ma femme, moi, elle aime ça se faire taponner. » Tu sais? C'était tout le temps avec une petite connotation sexuelle. L'époque, on s'entend, c'est pas qu'elle aime se faire taponner, ça lui fait du bien. Son stress lâche. Puis c'était les femmes. Les hommes pouvaient pas masser des femmes. Puis c'était très dur, c'était très pris, ça, là. Les hommes voulaient pas se faire masser par des hommes. Puis les hommes voulaient se faire masser que par des femmes. Les femmes acceptaient des fois avec des hommes, mais il y avait un malaise. Alors, pourquoi vous ne faites pas masser, messieurs? C'est simplement parce que vous avez peur d'avoir une érection. et vous ne savez pas quoi faire avec ça. Parce que vous avez attaché le toucher à la sexualité. Alors que nous, les femmes, le toucher n'a pas été attaché au départ à la sexualité. On prend soin de nos enfants, on les touche. Et si le petit garçon, par hasard, a une érection, on n'est pas en train de penser « Ah, il veut faire l'amour avec maman ». Non, c'est des mécanismes humains, point. Alors, il y a un malaise qui s'est créé, qui fait que vous avez créé un mur avec le toucher et vous l'avez mis juste dans la chambre à coucher. C'est pas de ça qu'on parle. Ah oui, la blague que je faisais, je veux juste vous dire, messieurs, que si jamais vous avez une érection durant un massage, je veux juste vous dire, la thérapeute, elle va se pencher à votre oreille, elle va vous dire, monsieur, ne vous en faites pas. Tout ce qui monte finit par descendre. Et là, il partait à rire. Ça, là, partait à rire.
Mais t'as vraiment vu, à travers les années, des hommes arrivés au spa, là.
Complètement, complètement. Les hommes avaient aussi peur de passer pour une homosexuelle s'ils venaient au spa. Oui. S'ils prenaient un facial. Mais tout ça, ça s'effrite complètement. Les hommes viennent seuls, en couple.
C'est chose du passé.
C'est chose du passé. Mmh. Et si jamais vous rencontrez un homme qui a peur, sachez juste que c'est là et c'est correct. C'est juste parce qu'il y a de la peur qui réside encore. Puis c'est correct. On n'est pas là pour se juger.
Mais je pense que le spaceman a joué un grand rôle là-dedans, oui. En visant hommes
oui.
et femmes.
Oui.
Jocelyna, on va continuer avec le et terminer avec le questionnaire Brave. J'ai 6 questions pour toi.
Oh my God.
Que fais-tu chaque jour pour te donner du courage?
Quand je me lève, j'observe comment je me sens. Prends le temps, mets un mot là-dessus. Puis des fois, c'est ah, youpi, là. Puis des fois, c'est je peux-tu m'accompagner là-dedans? Et souvent, la veille, si en entreprise, des fois, il y a une situation difficile, puis il y a un nœud qui s'est créé, en quelque part, avec ce nœud-là, je vais me donner un rendez-vous pour le lendemain matin pour aller écrire là-dessus. Pas le mettre en dessous du tapis. Pas le... Non. Et là, c'est la pratique du cœur créateur que je vais faire. Si jamais vous avez le goût d'avoir des liens là-dessus, je pourrais vous envoyer. Pour faire en sorte que ouf, je retombe dans mes bottines. L'autre chose que je fais fréquemment, particulièrement, des fois, le sommeil a été moins pertinent ou tout à coup, il y a des fils d'araignée dans la tête. Maintenant, je prends des douches à l'eau froide. Mais je n'ai pas commencé comme ça. J'ai commencé à l'eau chaude, doucement finir à l'eau froide. Mais c'est une pratique vraiment intéressante. Et ça pourrait, juste ça, là, je pourrais faire une conférence là-dessus parce que c'est un outil, il dirait anti-aging.
Ça nous intéresse.
Regardez quand vous mettez de l'eau froide dans le visage, qu'est-ce que votre peau a l'air. Et une minute, deux minutes, trois minutes dans la douche à l'eau froide, ressortir, il y a une espèce d'état de bien-être extraordinaire. Alors, il y a chacun, puis tout le monde, il y en a qui vont faire ça, là, c'est le cerveau reptilien qui fait ça. On n'a pas à s'inquiéter de raidir, tendre. On vient tous de la même place. Là. Au Québec, on était bien équipés avec la bonne chaleur des douches. Mais ça, je vous dirais, d'une façon systématique, c'est vraiment... Avec la pandémie, je l'ai poussé vraiment plus loin.
C'est quoi être brave pour toi?
C'est drôle. Je suis en dessous de mes draps. Puis là, je visualise ma douche à l'eau froide. J'ai chaud. Puis de dire oui, j'y vais. Parce que je sais comment je vais me sentir après. Je donne un exemple physiologique. Mais étrangement, c'est la même classe que ça demande du courage. Il faut se respecter dans tout ce qu'on fait, puis y aller. Mais c'est oser faire quelque chose qui nous dépasse. Y aller par étapes. Puis des fois, c'est juste une petite affaire. Aller courir 5 minutes, puis arrêter. Pas marcher. Aller courir 5 minutes, arrêter. Marcher.
Qu'est-ce que tu dis pour t'encourager?
Si je manque de courage, je vais prendre encore l'exemple de la douche à l'eau froide. Parce que c'est tellement physique en même temps. Mm-hmm. On se comprend tous, là, ça résiste. Là. Je visualise comment je vais me sentir après. Ou, j'ai pas le temps de faire ma pratique de cœur créateur. Ça va prendre quelques minutes, quelques instants, juste... OK, c'est quoi mon objectif? Ah oui, c'est d'arriver à cette place où je retrouve toute mon énergie. Là, où ça pourrait être courir, visualiser comment je vais être quand je vais revenir. Puis, et des fois, ça veut dire, vas-y juste 5 minutes, parce que c'est trop gros, je le ferai pas. Hein?
Puis à quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave?
Oh ben des fois. Ça, c'est un apprentissage, hein? À pas être brave. Comment on fait pour s'en sortir? Au lieu de tourner en rond. Tout à coup, t'es tanné de tourner en rond d'une situation. Puis tu t'assois. C'est dur. Tu vas marcher ton 15 minutes. T'avais pas le goût, tu veux pas. Je donne des exemples petits parce que ce que je réalise, c'est petit ou grand, c'est du même ordre. Et on a intérêt à le faire petit. Sinon, on le fera pas pantoute. Ça va toujours être demain. Demain, il faut que je parle à tel. Demain, il faut aussi. Mais non, on va faire la pratique. Puis là, il y a un chemin qui va se dessiner. Alors, ça demande une présence à soi-même, une tranquillité, une bienveillance. Et c'est un mot qu'on a charrié. Et je vous dirais que moi, je l'ai découvert, ce mot-là, vraiment dans la pandémie. Qu'est-ce qu'il voulait dire profondément? C'est être capable d'être tranquille avec moi-même, m'accepter dans mes vulnérabilités, des places qu'ils ne savent pas. Tu sais, c'est la planète qui va y passer. C'est pas. C'est rien. Je peux-tu... Et là, ce mot-là, être avec ça. Respirer par le nez. Respirer. Et de ça, il y a eu des choses vraiment... qui m'ont fait du bien. Puis qui ont dessiné quelque chose, qui dessinent quelque chose.
Quelle personne incarne mieux le courage, à ton avis?
Bien, ma copine, Denise Noël. J'ai l'air... Blague à part, c'est vrai, ça, là, beaucoup de courage, mais le personnage qui me... C'est Nelson Mandela. J'ai un profond respect pour cette personne. Mm. 27 ans en prison, jamais développé la haine envers tes geôliers. Faire en sorte qu'un pays qui s'en allait vers un carnage, on sait-tu que l'argent était là pour que les Noirs perdent? Et ça, là, c'est un modèle pour moi exceptionnel. Exceptionnel.
Finalement, qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager?
Oh my God, la vie est belle! C'est fou, c'est la découvrir. Parce que souvent, on reste emmuré dans notre petite boîte. Hein? Puis des fois, des journées, oh, je me sens moche. On dit à mon chum, oh Gérard, je me sens moche aujourd'hui. Mm. Ben oui, c'est correct. Peux-tu l'accepter? Ben oui. Puis déjà, quand je vais faire ça. Alors, il y a un pas qui va se dessiner. Et je le vois, il y a plusieurs personnes qui commencent à faire de l'éco-anxiété ou tout ça. Parce que moi, c'est le développement durable qui est au cœur. Tu sais, ces pavillons-là, les oisifs, je ne l'ai pas dit, là, mais c'est développement. On est en nomination, d'ailleurs, pour un prix au Québec, là-dessus, au niveau du développement durable. Comment tracer un futur pour l'hôtellerie? Des modèles, des maisons. Comment on va construire des maisons qui ne polluent pas? Et ce que je vois, c'est juste qu'il ne faut pas tomber dans cette éco-anxiété. Il faut juste poser des gestes. Pas des gestes flamboyants. Moi, j'ai un plaisir à faire mon petit compost à chaque jour. Je vais le porter dans le bois, c'est pas compliqué. Là. Je pitche ça. Là. Je contribue à nourrir quelque chose. Je ne sais pas quoi. Il y en a un d'autre, c'est des petits pas. Comment on achète? Là, hein? Alors là, on sent qu'on fait quelque chose au lieu que la colère nous sorte par les oreilles. Puis c'est une énergie extraordinaire. Il faut faire de quoi quelque chose de positif avec ça. La frustration, la rage, ils nous sabotent, ils font ci. On va pas là. On bouge. Un petit pas. Puis on part d'où on est chacun. Puis tu sais, si chacun, on joue notre goutte d'eau, ben dans l'océan, on participe à l'océan. Puis, il y a quelque chose qui peut arriver. Alors, puis je vois les jeunes, c'est avec des jeunes que j'ai construit ça. Moi, ils ont 40 ans, 35 ans, ces jeunes-là. C'est magnifique. C'est magnifique ce que les gars-là puis ces filles-là font. Fait que, puis je regarde l'équipe chez nous, c'est magnifique. Fait que, oui, donnez votre meilleur. Et quand on arrive à donner son meilleur, ben il y a des miracles qui arrivent, hein, mine de rien.
Merci infiniment, Jocelyna. T'es incroyable. Merci d'être venu à Brave puis d'avoir partagé tout ce que tu as appris avec autant de générosité.
Merci de m'offrir cette opportunité-là. Et j'espère que je n'ai pas blessé vos oreilles.
Merci beaucoup.
Je suis fascinée par toute la curiosité qu'il y a en Jocelyna. C'est ce qui lui a permis tout d'abord de bien se connaître, ensuite de créer son ancrage et puis de bâtir sur cet ancrage son projet, sa vie, une découverte à la fois. Cette méthode organique a créé une des plus belles entreprises québécoises, une entreprise qui fait du bien à tellement de gens. Comme quoi, quand on suit le fil de sa vie, malgré les hauts et les bas, ça rejaillit sur les autres. Merci, cher Brave, d'avoir été à l'écoute. Et à bientôt.
Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez vous y abonner et osez le partager. Merci de nous écouter.